Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Question du
public. Vous êtes sur La Zone payante, un podcast de Cube Radio. Et sur Cube, vous pouvez nous regarder aussi à la télé. Maintenant, nous serons diffusés à 6 heures le samedi matin et en pre-game dimanche en après-midi à partir de 13 heures. Donc, venez nous rejoindre sur Cube.
Oh, quel avant-match!
Oui, monsieur, sur Vidéotron. Vous pouvez nous regarder sur Illico 651 et sur Helix au 70. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à Cube. C'est formidable comme chaîne. J'en suis d'ailleurs le boss. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux questions du public parce qu'on en a reçu encore pas mal de questions. Cette semaine, on va commencer avec Thomas de Bordeaux, à tout seigneur, tout honneur, notre ami français qui nous suit à chaque semaine, qui tient le score pour nous. Et on va savoir, entre moi et Steph, qui donc terminera le mieux les séries dans au comté prédiction. Faut dire que je suis en avance, je ne vais pas me vanter. Thomas, donc. C'est incroyable ce qu'une relation amoureuse peut avoir comme impact sur un sport. En France, depuis que notre grande amie Taylor Swift a récolté des honneurs pour sa musique, tout le monde parle du Super Bowl à venir, même si les journalistes français ont encore du mal à bien retranscrire la vérité. On a droit à la plus grande chanteuse pop, qui est la petite amie du quarterback star des Chiefs. Oui, alors...
Ah, non. C'est pour ça qu'on est là, Jean-Nic. C'est à ça qu'on sert.
Exact. Exact. Et qui jouera la finale du Super Bowl. Évidemment, la finale du Super Bowl, c'est un pléonasme. Alors, les Français, pour Thomas, les commentateurs français ne maîtrisent pas encore très bien le sujet de la NFL.
On leur pardonne.
C'est pour ça qu'on est très écoutés en France. Quand on regarde les statistiques, La Zone payante est un podcast très populaire en France. D'ailleurs, on salue nos amis et nos cousins français qui nous regardent et qui nous écoutent. Voici la question de Thomas. Une question qui m'interroge. Pourquoi le Super Bowl s'appelle-t-il le Super Bowl plutôt que simplement la finale de la NFL?
Ça, c'est drôle parce que, ironiquement, ça vient des Chiefs qui sont au Super Bowl cette semaine. À l'époque, leur propriétaire, Lamar Hunt, il faut savoir, là, pour les gens qui sont pas nécessairement férus de l'histoire de la NFL, il y avait deux ligues à une certaine époque. Il y avait la NFL, mais il y avait l'AFL qui montait en puissance tranquillement, qui grugeait là, pas mal de popularité puis de talent dans la NFL. Puis, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas faire une finale entre ces deux grandes ligues-là? Puis Lamar Hunt, lui, était propriétaire des Chiefs, la famille Hunt qui est toujours propriétaire de l'équipe aujourd'hui. Et le monsieur Hunt en question, ben, avait dit, pourquoi on n'appellerait pas ça le Super Bowl? Il y avait des jouets, semble-t-il, de ses enfants à l'époque, des balles qui s'appelaient des Super Balls. Donc, super balle. Et lui, il avait dit, ben ça pourrait être bien de faire le Super Bowl, le bowl ultime entre les deux ligues. Puis quelques années plus tard, ça, c'était en 1966. Puis en 70, les deux ligues ont fusionné. Puis c'est pour ça que l'AFL, en passant, est devenue l'AFC, la conférence américaine qu'on connaît aujourd'hui. Fait que là, à partir de là, la NFL est redevenue la NFL toute puissante qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait vraiment deux circuits qui rivalisaient, puis qu'on a mis une contre l'autre, là, un contre l'autre au Super Bowl.
Sifflet, mon cher monsieur.
Ça réveille.
Félicitations à Thomas qui va regarder, lui, pendant la nuit, le Super Bowl entre les Niners et les Chiefs. On passe à Eric. Avec l'éclosion de Love à Green Bay, les équipes n'auraient-elles pas avantage à laisser les carrières recrues sur un banc un an ou deux? On a vu souvent d'excellents QB apprendre sur le banc, Brady, Mahomes, Young, Rodgers. J'ai l'impression qu'on les brûle souvent. Une question d'Éric Biron.
Ouais, ça c'est super embêtant. C'est un bon point qu'Éric amène parce que c'est vrai que c'est arrivé là. Effectivement, Mahomes, on a tendance à oublier qu'en 2017, là, il a joué seulement le dernier match de l'année quand les Chiefs avaient plus rien à gagner. Fait que c'en est un qui a pris sur le banc. Mais pour tous ceux qui apprennent sur le banc, il y en a beaucoup qui se développent aussi très rapidement. Tu sais, les exemples sont flagrants. Regarde cette année un CJ Stroud, par exemple. Il y en a eu d'autres là, dans les dernières années qui ont été de très bonnes recrues. Fait que c'est de savoir, surtout, je pense, à quel point le corps arrière est mature, à quel point on voit l'entraînement qui maîtrise le système. Tu sais, faut pas s'exciter avec les partisans qui réclament que la recrue joue. Faut savoir ce qu'on a entre les mains. Faut savoir, est-ce qu'il est bien entouré, ce corps arrière-là? Est-ce qu'il y a un danger à l'exposer à une ligne offensive très poreuse? Ça, c'est des situations qu'il faut gérer au cas par cas, je pense. Fait qu'il n'y a pas une réponse universelle, sinon toutes les équipes l'appliqueraient. Mais faut pas que les équipes se laissent influencer trop par le facteur financier. C'est-à-dire que la recrue coûte des pinottes. On va le faire jouer rapidement, comme ça, ça va nous permettre d'investir partout autour à d'autres positions. Ça, c'est considéré aussi, mais faut pas que ce soit le facteur. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments là-dedans.
On s'en va à la question de Kevin qui nous dit « Si Purdy ne connaît pas une grosse game, que vont faire les Niners? »
Ah, et ça, ben écoute, moi j'ai affiché mes couleurs déjà. Si Purdy connaît pas une grosse game, on passe à autre chose. Puis l'an prochain, il va revenir. Je crois encore en lui. Je peux pas me dire « Purdy connaît un mauvais match. » On arrête tout, là, puis on cherche ailleurs. Mais il va avoir du bruit à cause du fait que, tu sais, c'est une histoire, on en a parlé un petit peu la semaine passée dans Zone Jean-Nic, mais les Niners ont quand même voulu courtiser Tom Brady durant la dernière saison morte. Je te dis pas qu'ils vont le refaire encore, mais est-ce qu'on fait 100% confiance à Purdy? Je pense que oui, mais faut pas oublier une chose. Shanahan en est revenu là-dessus cette semaine. Je pense qu'il a parlé de ça à Peter King. Puis il disait que le gros facteur qui a fait qu'il a courtisé Brady, c'est qu'à ce moment-là, Purdy avait le bras dans une attelle. Il se remettait d'une opération au coude très, très, très majeure. On savait pas ce que ça allait donner. Fait qu'il s'est dit comme police d'assurance, je pourrais aller chercher Brady. Il va jouer pendant un an. Puis après, s'il veut prendre sa retraite, il prend sa retraite. Puis on retourne à Brock Purdy. Mais c'est sûr que cette approche-là qui a été bruitée, ben ça va toujours revenir au sens où il connaît un mauvais match, est-ce qu'on le change? Mais moi, ma réponse, c'est non. On continue avec lui.
Thomas nous pose la question. De manière générale, comment un joueur se prépare pour le match du Super Bowl? À quoi ressemble son emploi du temps dans les deux semaines précédant le match? Et quelles techniques prennent les équipes pour s'assurer que les joueurs demeurent focus et en bon état pour le grand match?
Ouais, merci Thomas O'Neill Grenier. C'est pas Thomas de Bordeaux là. Faites attention, on donne pas la parole deux fois. Ouais. Là.
Comment juste un chien qui s'appelle Fido.
C'est ça, exactement. Bravo. Fait que comment il se prépare? Souvent, contrairement aux autres matchs, évidemment, où là on a deux semaines pour se préparer. La première semaine va déjà servir à installer le plan de match, à gérer là, un peu comment on va attaquer l'adversaire. Parce que on sait que la semaine du Super Bowl, ce qui est normalement la routine des pratiques du mercredi, jeudi, vendredi, ça peut être perturbé un petit peu beaucoup là, tu sais, parce que l'équipe voyage le dimanche, lundi c'est la grosse soirée des médias, mardi, mercredi, jeudi encore beaucoup de points de presse. On s'entraîne à travers ça, mais c'est sûr que c'est pas une semaine normale. Il y a des rencontres aussi avec le diffuseur CBS qui veut avoir ses entrevues individuelles. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'on voit pas, tu sais, qui se déroulent en arrière-scène et qui font en sorte que les joueurs, ben, ils doivent appliquer le plus possible leur routine, même si ça déroge pas mal. Mais c'est pour ça qu'ils installent leur plan de match un peu plus tôt. Puis c'est drôle parce qu'il y a des joueurs qui parlent beaucoup cette semaine aussi du stress que ça amène. Ça peut paraître fou, mais de tout le monde de leur entourage qui veulent savoir, je peux-tu aller au Super Bowl? As-tu un contact pour m'amener? Combien t'as droit de billets? Là, si t'en as 30 billets, là, t'es rendu à combien? J'aimerais vraiment ça y aller. Tu sais, Carl Shannon a fait une joke là-dessus aujourd'hui. Il disait, on découvre à quel point soudainement il y a du monde qui nous aime, qu'on voyait pas depuis longtemps. Fait qu'il y a tout ça, cet aspect-là à gérer. Puis ça, les joueurs essaient de le gérer le plus tôt possible avant de partir le dimanche au Super Bowl. Pour pouvoir être vraiment d'attaque là, une fois qu'ils sont à Vegas ou ailleurs, là, où le Super Bowl a lieu.
Mario qui nous dit, on connaît l'adage, l'offensive gagne des matchs, mais la défensive gagne des championnats. Ma question, est-ce vrai pour le Super Bowl? Est-ce que dans l'histoire, le duel s'est gagné en majorité avec le meilleur des deux défensives? Merci et go Swifties! Mario qui
monte go Swifties. Mario, dans le temps, à l'époque, ça a été vraiment un adage qui était tout à fait vrai. Là. Tu sais, tu regardes, il y a beaucoup des premiers Super Bowls, puis même là, jusqu'aux années 80, là, tu sais, c'était des Super Bowls souvent à bas pointage ou une équipe qui scorait énormément de points, qui donnait une volée à l'adversaire. Puis on a vu une tendance dans les années 2000 avec des Super Bowls plus offensifs. Là. Tu sais, dans les dernières années, honnêtement, il y en a eu quelques-uns où on se disait « Hey, la défense existe-tu? » Là, tu sais, je pense entre autres au Super Bowl Eagles, Patriots. Là, ça avait fini quoi? 41 à quelque chose. 41-33. Bon, tu vois après ça, 38-35 l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de pointages assez élevés des équipes qui marquent 30 points. Fait que sans dire que l'adage est plus vrai, ça prend aujourd'hui là, une attaque crédible pour performer dans ce match-là.
Quel est votre Mont Rushmore de la NFL, toutes positions confondues dans toute l'histoire de la NFL? Ça, c'est Jérôme qui nous pose souvent des questions comme ça, qui nous font réfléchir. On va y aller, mettons, pas toutes positions confondues. Là. Faisons, disons, corps arrière, wide receiver, puis running back là, pour aujourd'hui. Puis peut-être que Jérôme se reposera ta question dans un moment où on pourra réfléchir plus en profondeur. Mais toi, Steph, quarterback, running back, wide receiver, qui tu mets sur le Mont Rushmore? Il t'en prend 100, t'en prends 5.
Ouais, 5. Bon, corps arrière. OK, Tom Brady, 1. Joe Montana, 2, ça c'est sûr. Peyton Manning. Après ça, qui que je mettrais là, à I5? Moi, je pensais qu'on y allait toutes positions confondues, mais bon. Otto Graham, ça c'est un vieux corps arrière des Browns que peut-être personne connaît, mais il a gagné un paquet de championnats très dominant. Je pense que t'as pas le choix de le mettre là-dedans. Puis je mettrais, je pense que j'irais avec Dan Marino. Il y en a qui vont dire il a pas gagné de Super Bowl, je le sais. Mais pour moi, ça reste un des grands corps arrière qui a influencé beaucoup ce qu'on voit puis la façon dont les corps arrière jouent aujourd'hui. J'espère que j'en oublie pas là, là-dedans.
Oh, mon sifflet est...
Ton sifflet est mort déjà?
Mon sifflet est mort, on va y aller avec... Ben oui, je sais... On va y aller avec une autre question, celle de Simon. Au cas où vous n'auriez pas encore enregistré l'émission, bon, il dit « Comment expliquer que Bill Belichick, le plus grand entraîneur de tous les temps, se retrouve en ce moment sans emploi? »
Ben écoute, moi je suis très surpris de ça. Moi j'aurais misé cher qu'il allait se trouver un emploi dès cette année. Là, je pensais pas qu'il y aurait une pause. Là on commence à se demander est-ce qu'il va même revenir. J'écoutais Tom Brady parler cette semaine, je sais pas si c'était dans son podcast ou quoi, mais il disait qu'il était... renversé de voir que Belichick avait pas été engagé. Julian Edelman a dit la même chose aussi. Ça a été un choc, je pense, pour beaucoup de monde, surtout qu'il y a eu deux entrevues à Atlanta. On s'attendait que ça soit un peu dans le sac. Là, t'sais, je pensais que c'était une formalité rendue à deux entrevues. J'en ai pas d'explication. Autre que, est-ce qu'il a demandé plein pouvoir comme il y avait à Nouvelle-Angleterre? Est-ce que ça a été une exigence de son côté de dire « je veux continuer de prendre toutes les décisions entourant le personnel » On sait que ça n'a pas été un succès, ces repêchages, la fin en Nouvelle-Angleterre. Peut-être que ça a fait réfléchir M. Arthur Blank, le propriétaire des Falcons.
Une dernière question de Simon. D'ailleurs, il nous dit, l'année passée, il nous avait demandé de nous choisir la couleur du Gatorade. C'est vrai, hein, du Simon, et je pense qu'il aime les paris un peu farfelus. Oui. Là, il nous dit, combien de temps pensez-vous que va durer l'hymne américain? Semblerait que ça tourne autour de 126 secondes. Et là, c'est pas un pari facile à guesser.
Oh
ça.
Boy. Oh, et boy, là. Comment on peut savoir ça? 126. Ah, 126 moi, je vais y aller minutes. Avec la famille. 126.
OK, moi, je vais aller avec 140.
Boy, ça va tourner. Moi, ça va tourner autour de
je
ça.
Je file 140. OK, hey, on y va. Dernière question, la question de Robin.
Allez, ah oui.
Moment Robin. Sortons un peu du Super Bowl et parlons du trophée Heisman. Y a-t-il déjà eu une course approchant cette légendaire de 1997 où il y avait Peyton Manning, Charles Woodson et Randy Moss? D'ailleurs, c'est un... Je l'ai vu, c'est un 30 for 30 ou c'est un sur Netflix. Ouais. C'était une très bonne histoire, ça, le Heisman de 97. Peyton Manning avait décidé de rester une année de plus à Tennessee. C'est quoi les bonnes années d'Heisman que t'as en tête, toi, Steph?
Ben, c'est ça qui est le pire, c'est que dans les dernières années, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Puis j'aimais la question de Robin parce que ça m'a poussé à réfléchir à c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un suspense vraiment. Puis moi, la dernière qui me vient en tête, c'est 2015, là, quand il y avait eu un certain combat, je dirais, entre deux porteurs de ballon, là, Derrick Henry puis Christian McCaffrey. Derrick Henry qui jouait à Alabama, McCaffrey qui jouait à Stanford. Mais tu sais, ça avait été gagné quand même assez, là, ben, pas facilement, mais tu sais, finalement, Derrick Henry avait gagné avec une avance quand même relativement confortable. Mais sinon, dans les dernières années, ça a été tough pas mal. Mais en 2009, ce que je voyais, c'est que la course la plus serrée, ça a été en 2009.
Avec Reggie
Attends
Bush?
Un peu, je regarde, là. Mark Ingram, qui était longtemps avec les Saints dans la NFL, il était à Alabama aussi, un porteur de ballon, qui avait été dans la course avec le porteur de Stanford, encore une fois, Toby Gerhardt, qui dans la NFL a vraiment pas eu une belle carrière. Puis il y avait le corps arrière aussi de Texas, Colt McCoy, qui est encore backup là, dans les dernières années. Lui, il a roulé sa bosse longtemps dans la NFL. Fait que 2009, ça avait été une course là, très, très, très serrée. Ingram avait gagné par seulement 28 points là, au vote. Je pense que c'est une des courses les plus serrées avec celle que Robin évoque en 97.
Merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions. Si vous voulez discuter, vous pouvez nous rejoindre en nous interpellant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire partie de notre groupe Facebook qui s'appelle « Nos précieux conseils de fantasy football ». Oui, « Nos précieux conseils de fantasy football » sur Facebook. Demandez d'être membre. On est déjà plus de 1000 à discuter de football sur ce groupe. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante.
Oui, l'adresse la zone payante en commercial, québecormedia.com.
Restez là ensuite, c'est le bar. Bougez pas.